Merci beaucoup, cher Alain Rouquier, pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous en premier, selon la loi qui veut que c'est le moins qualifié qui parle en premier. Et je suis parmi vous ici l'un des moins qualifiés pour bien parler de ce livre. Mais je tenais absolument à être là aujourd'hui pour rendre hommage à Alain Touraine et pour rendre hommage à ce que ce livre traduit de l'action d'Alain Touraine et de la pensée d'Alain Touraine. D'abord, et Alain Rouquier l'a très bien dit, parce que ce que nous célébrons aussi, et peut-être aussi, c'est aussi est un premièrement, c'est l'amitié. Il y a ici de l'amitié, je vois beaucoup de visages amis. Ces visages amis correspondent à un chemin. Ce chemin, il est intellectuel, il est humain. Il porte sur plusieurs décennies, et aujourd'hui, c'est aussi un rassemblement, je dirais, d'une communion de pensées, de personnes qui pensent différemment, de personnes qui ne sont pas standardisées dans leur façon d'approcher, mais qui tous ont en commun d'admirer Alain Touraine et d'avoir considéré que la pensée d'Alain Touraine les a stimulés, soit pour penser comme lui, soit pour penser avec lui, soit pour penser à côté de lui, mais en tout état de cause, en considérant qu'il y avait là une œuvre majeure. Et puis cette amitié, elle s'incarne en une géographie, qui n'est pas seulement la géographie de Paris ou de la France, mais bien entendu celle de l'Amérique latine. Ce n'est pas pour rien que nous sommes rassemblés dans la maison de l'Amérique latine. Merci Alain Rouquier encore pour cette hospitalité. Bien entendu, ce qui nous unit, c'est aussi ça. Et lorsque j'étais directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, j'étais toujours fier de pouvoir dire que la quasi-totalité, ou en tout cas l'immense majorité des grands noms des sciences sociales en France, s'était illustrée sur des terrains latino-américains, notamment en sociologie, mais on pourrait prendre chacune des disciplines, pour dire à quel point l'Amérique latine, et peut-être depuis Montaigne qui n'y avait pas mis les pieds, l'Amérique latine a été le laboratoire réel ou imaginaire d'une pensée toujours renouvelée sur l'homme et sur la société, précisément parce qu'elle offre sans doute des réalités à la fois vierges, c'est ce qui se passe à partir du XVIe siècle, mais aussi des réalités extrêmes. Et elle nous permet ainsi de penser la ville, elle nous permet de penser la violence, elle nous permet de penser les inégalités, mais elle nous permet aussi de penser l'utopie, elle nous permet de penser des systèmes politiques avant-gardistes. Elle nous permet tout simplement de penser l'homme. Et cette fascination qu'exerce l'Amérique latine sur les sciences sociales est une fascination que je qualifierais de fascination saine. Cette fascination saine produit de la science, donne de la science. Et de ce point de vue-là, l'Amérique latine produit aussi des sciences sociales. Et je suis heureux de saluer aussi des grands amis venus d'Amérique latine qui sont aussi des grands noms des sciences sociales et qui souvent, dans leur relation avec la France, ont pu bâtir leur œuvre aussi sur les sciences sociales et à partir d'une pensée venue d'Amérique latine. Donc c'est cette fécondité de la rencontre entre la France et l'Amérique latine que nous célébrons aussi au travers de l'œuvre d'Alain Touraine. Je me souviens de discussions avec Alain Touraine dans les années 90 où il me disait « Oh, bah, de toute façon, je ne prétends plus parler de l'Amérique latine, je n'y consacre plus assez de temps ». Mais en réalité, l'Amérique latine est toujours là. Et même quand l'Amérique latine n'est plus un terrain d'enquête, l'Amérique latine est un horizon de pensée. Et c'est aussi ça que nous célébrons aujourd'hui. Et puis, venir ici, c'est pas seulement en tant qu'ami, c'est pas seulement en tant que latino-américaniste de toujours, mais c'est aussi, évidemment, en tant que ministre de l'Éducation nationale, qui a un intérêt pour la pensée d'Alain Touraine. Il n'y a pas d'action politique, il n'y a pas d'action publique qui puisse valoir si elle n'est pas mise en perspective par une pensée sur la société. Et c'est pourquoi la sociologie est si importante dans l'action publique. Il arrive d'ailleurs de manière assez ironique que l'on m'accuse de vouloir évacuer la sociologie de mon horizon de réflexion dans mon action de ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a rien de plus faux, mais mon but aujourd'hui n'est pas de démontrer cela. Il est possible qu'une certaine sociologie me paraisse avoir été trop dominante dans le champ de l'éducation. Ça, je ne le nie pas. Mais la pertinence de la discipline sociologique est évidemment essentielle. Il n'y a pas d'action publique s'il n'y a pas de réflexion sur la société. Et d'une certaine façon, la crise que nous sommes en train de traverser ou que nous venons de traverser est une crise aussi de l'articulation entre l'action politique et l'analyse de la société, puisque les enjeux de de cette France qu'on a parfois qualifiée de France périphérique, des difficultés en tout cas de la société française qui ne sont pas que des difficultés sociales, mais aussi des difficultés du sujet, des difficultés d'identité, des difficultés de l'acteur social, tout autant de thèmes discutés, contestés, malaxés par la pensée d'Alain Touraine. Bien, ces difficultés dans cette France du début du XXIe siècle, si on ne les réfléchit pas, évidemment, on perd quelque chose pour nourrir l'action. Et dans la pensée d'Alain Touraine, il y a à la fois une analyse et puis il y a des préconisations. Il y a une analyse qui s'assume comme menant à la propre subjectivité de l'auteur Alain Touraine. Et je voudrais distinguer les deux parce que dans ce que je vois au travers de son œuvre, et nous avons souvent eu l'occasion de débattre, et je pense à tout ce que nous avons fait dans le cadre de l'Académie de la Latinité grâce à Candido Mendes et aux discussions que nous avions, qui souvent portaient sur ce qu'on a appelé à un moment donné le dialogue des civilisations, et en tout cas sur la possibilité de se faire frotter de manière féconde différentes visions de la société. Bien, dans ces débats, ce qui m'a toujours frappé chez Alain Touraine, et on le retrouve dans « Défense de la modernité », c'est le fait d'assumer la subjectivité. C'est le fait de non seulement d'analyser la montée de la subjectivité, la montée du sujet, de ce qu'il appelle le sujet, mais aussi de considérer qu'au fond, cette évolution est une bonne chose, et d'en assumer les tenants et les aboutissants. Je crois qu'il y a là quelque chose de très intéressant, une chose à laquelle on n'est pas obligé d'adhérer d'ailleurs, mais qui en tout cas fait beaucoup réfléchir. En ce qui concerne l'analyse, pour ma part, ce qu'il a écrit dans ce livre comme précédemment rejoint parfaitement des choses que, pour ma part, j'ai pu analyser dans les champs qui m'ont intéressé. Si je prends le domaine du droit, la périodisation qui est faite entre disons l'Ancien Régime, la période des Lumières, la période industrielle et la période contemporaine est une période qui fait complètement sens du point de vue de la pensée juridique. Chacune de ces périodes identifiées par Touraine sont des périodes où il y a des paradigmes juridiques différents qui apparaissent et qui, bien entendu, renvoient aussi à des conceptions de la société. Cette société d'avant 1789, du point de vue du droit, est une société qui met la notion du juste comme paradigme suprême. Le droit, c'est alors ce que l'on appelle en latin l'art du bon et du juste. Autrement dit, dans une tradition aristotélicienne, il s'agit de décider ce qui est bon, comment rétablir l'ordre là où l'ordre a été défait, et c'est le but du droit que de faire cela. Et puis avec la Révolution française, avec aussi la Révolution industrielle et avec le positivisme juridique qui est si parallèle au positivisme sociologique, eh bien, le paradigme n'est plus le paradigme du juste, n'est plus le paradigme du bien, c'est le paradigme du vrai. Le droit prétend rechercher une vérité, comme on cherche une vérité scientifique, de même que la sociologie naîtra sous ces auspices-là, avec cette idée que, eh bien, il y a une vérité du code, par exemple, une vérité de ce qui est écrit, et c'est en allant vers cette vérité que l'on peut faire avancer le droit et arriver à des solutions juridiques. Au passage, on voit bien que c'est une évolution aussi des formes. L'importance de l'écrit, la mise en écrit de la norme est en soi quelque chose qui fait changer de paradigme. C'est un sujet qu'on peut illustrer de mille façons. Je le dis devant Christian Gros, par exemple, sur le sujet des droits des Indiens en Amérique latine. Il y a évidemment, là aussi, une périodisation qui fonctionne si on réfléchit à la façon dont le droit des Indiens se dit, s'écrit, se met en forme. Et puis ce paradigme du vrai, ce paradigme positiviste, il est largement rentré en crise, et plusieurs ouvrages d'Alain Touraine, évidemment, nous décrivent cette crise. Cette crise, c'est une crise du progrès, c'est une crise de la notion même de vérité, c'est une crise des sciences à certains égards, et elle nous mène à ce troisième temps qu'il est beaucoup plus difficile de définir. Et c'est finalement toute l'entreprise de ces différents ouvrages que d'aller le définir. Et pour ma part, j'adhère assez fortement à ce qu'explique Alain Touraine, y compris dans la défense de la modernité, en allant chercher vers l'hypersubjectivité cette définition de notre temps. Bien sûr, on pourrait jouer sur les mots, savoir si cette défense de la modernité, c'est une défense de la postmodernité, c'est une défense d'une modernité qui, étant allée au bout d'elle-même, est tout à fait autre chose que ce que l'on a l'habitude d'appeler modernité. Dans le domaine du droit, cela se traduit de la façon suivante. La modernité, c'est évidemment ce qui advient avec les révolutions de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Cette modernité, elle pose l'homme en son cœur, mais elle pose aussi une forme de hiérarchie des normes très claire. C'est ce qui débouche sur la notion d'état de droit. Eh bien, quand on va jusqu'au bout de la notion d'état de droit, ce que d'ailleurs les pays d'Amérique latine ont fait fortement avec leur démocratisation, on a un renversement de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on arrive à ce que j'ai pu appeler pour ma part la société de droit. Cette fois-ci, le droit est au pluriel, quand dans l'état de droit, le droit est au singulier. Et c'est en allant jusqu'au bout de l'état de droit qu'on va vers la société de droit, qui d'une certaine façon est l'inverse de l'état de droit. Autrement dit, il y a quelque chose de parricide dans ce qui se passe, il y a quelque chose qui se retourne contre soi-même, il y a quelque chose qui renvoie à ce que nous décrit Alain Touraine quand il nous parle de cette hypersubjectivité. Et ça s'appliquerait par exemple à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les droits des Indiens, ça s'applique parfaitement aux constitutions latino-américaines, qui sont les plus avant-gardistes qui soient sur le plan de la définition des droits. Multiplication des droits, multiplication des procédures, multiplication même des autorités suprêmes pour faire valoir ces droits. Et à la fin, la multiplication des droits, des voies d'accès aux droits et des juridictions débouche sur des stratégies juridiques concurrentes de la part des acteurs sociaux, et donc une hypersubjectivation du droit qu'on peut juger bonne ou mauvaise. Là n'est pas le problème, en tout cas à ce stade, mais qui en tout cas est un fait. Et ce fait est intéressant en soi. Et donc les grilles de lecture d'Alain Touraine sont des grilles de lecture heuristiques, à mes yeux, quelle que soit la science humaine du point de vue de laquelle on se place. Et j'ai voulu citer ici rapidement quelques exemples juridiques, mais cela vaudrait dans d'autres champs comme par exemple la science politique. La question est de savoir ensuite si on assume cela, si on se réjouit de cela, si on considère que cette pente comme cette pente naturelle de nos sociétés est la pente souhaitable, ou si au contraire, nous observons des tendances que politiquement nous ne voulons pas. Et c'est là que je fais moi parfois un pas de côté quand je lis Alain Touraine, et puis je ferai une conclusion heureuse parce qu'il faut une happy end dans ce genre d'intervention, mais qu'à la fin je le rejoins. Donc vous voyez, il n'y a même pas de suspense dans mon film. Mais le pas de côté, c'est quand on le voit dans ce livre comme dans les livres précédents, cette hypersubjectivité est assumée totalement. Et elle, c'est évidemment extrêmement suggestif, c'est très stimulant de voir cette façon d'assumer l'hypersubjectivité, mais évidemment, on est assez vite saisi d'une forme d'inquiétude. Si ce sujet est si constructeur de lui-même, qu'est-ce que c'est qu'une planète de 6 milliards de constructeurs de soi-même dans une forme d'émancipation totale qui serait notre idéal, mais qui, là aussi, serait un idéal qui, arrivé à son bout, se retournerait contre lui-même. Je ferai un parallèle, puisqu'on n'est pas, dans des propos trop publics, n'est-ce pas, avec ce qui vient de nous arriver en France. Le projet du gouvernement auquel j'appartiens, c'est un projet d'émancipation de l'individu par la formation et par le travail. Et c'est donc un projet que j'oserais qualifier de tourainien. Mais en même temps, sans aucun esprit de récupération. D'autant plus que je pense que nous venons de vivre une crise de cela. Parce que la crise que nous venons de traverser depuis un mois est un retour du réel qui s'impose à nous. C'est-à-dire que même avec les meilleures intentions sur cet enjeu d'émancipation par la formation et par le travail, en réalité se rappellent à nous les territoires, les histoires, les désirs de sociabilité, les désirs de collectif, face à justement à ce qui est perçu comme un individualisme contemporain et même comme une construction du sujet qui ne peut pas être une fin en soi. Je pose plus de problèmes que je n'apporte de solutions en disant cela. C'est ma part de récréation aujourd'hui. Je pense que nous devons réfléchir à partir de là. Mais bien entendu, parce que je ne veux pas être trop long, là où assez rapidement je rejoins de nouveau Alain Touraine, c'est que les conséquences pratiques qu'il déduit de cette vision, que par ailleurs j'interroge, sont évidemment des conclusions que je partage. J'avais marqué une page, le marque-page est parti, mais j'avais marqué une page sur l'éducation qui est absolument magnifique, aussi bien sur le fond que sur la forme, mais que je ne retrouve plus au moment de vous citer, cher Alain, mais qui est une page tout simplement sur l'émancipation par l'éducation, qui, je pense, est une des conclusions concrètes auxquelles j'adhère évidemment totalement de ce livre, c'est-à-dire cette idée simple, fille des Lumières, évidemment, fille de Condorcet à mes yeux, mais qui est tout simplement que l'éducation est évidemment ce qui permet à l'homme de se réaliser. Et c'est pourquoi il y a dans ce livre quelque chose d'hyper moderne, non pas quelque chose de post-moderne, mais quelque chose d'hyper moderne assumé, qui est évidemment extrêmement suggestif, parce que cette hyper modernité assumée garde quand même les fils qui la relient à ce qu'il peut y avoir d'éternel dans le genre humain, c'est-à-dire l'émancipation par l'autre, la possibilité de, pour le sujet certes de se créer, mais dans l'interaction, et la première des interactions, c'est évidemment celle que donne l'éducation, pas seulement l'éducation de la famille, mais l'éducation que donne la société par l'école. À partir de là, il y a, je pense, un projet de société qui est effectivement un projet émancipateur. Il a, au travers de l'œuvre d'Alain Touraine, ses points de repère, si je puis dire, à la fois historiques et sociologiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut vous être très reconnaissant, cher Alain, de cela. Je pense que nous devons penser à cela dans la société hyper technologique dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Là aussi, ce livre fait réfléchir sur notre être au monde par rapport à cette évolution technologique. Mais je crois que, in fine, c'est un livre qui assume le mot d'humanisme, qui finalement est souvent peu assumé dans les sciences sociales d'aujourd'hui. On a peur, en prononçant ce mot, de se rattacher à des traditions dépassées. En réalité, plus que jamais, nous en avons besoin. Et pour ça aussi, soyez-en remerciés mille fois. Merci, Alain.
Merci beaucoup. Merci d'abord à Alain Houpier. Parce que Alain Houpier, ça marche. Parce que Alain Houpier est peut-être le premier, d'une certaine manière, qui a voulu, qui a pensé que des histoires, des modèles, des événements, des personnages d'Amérique latine pouvaient avoir, qu'il serait même étonnant qu'il n'y ait pas de tous ces éléments d'Amérique latine qui est une valeur générale pour l'analyse, de même que on a utilisé le modèle anglais, américain, allemand, français, que sais-je, pour comprendre un peu l'histoire du monde. Pourquoi ne pas se demander si le péronisme ou si tel autre aspect de l'histoire latino-américaine n'a pas une signification profonde, je veux dire, générale. Et j'insiste là-dessus parce que s'il y a vraiment quelque chose à quoi je suis attaché, et surtout dans la période actuelle de ma vie qui est la dernière, c'est la nécessité de donner une priorité absolue à la démarche théorique, de construire des éléments d'analyse, pas de raconter, pas de prévoir. Pour dire les choses en bon français, je dirais ce que je déteste le plus au monde, c'est l'idéologie, et ce qui m'attache au travail que je fais avec une certaine activité depuis, je ne sais pas, 70 ans ou plus, c'est le goût de l'explication par l'analyse, de la théorie. Et je dirais, pour employer le mot que vous avez employé, que j'ai un mot que j'adore, c'est la libération. On ne fait pas plus humaniste et plus vieille France, mais c'est la libération par l'analyse. Ou tout au moins, si j'avais à m'identifier d'ailleurs à une tradition intellectuelle, à vrai dire, malheureusement pour moi, ça ne serait pas tellement une tradition française, ça serait plutôt une tradition allemande. Quoique je ne sois pas du tout de formation germanique, je ne parle pas allemand, mais j'ai eu l'honneur d'être invité à faire partie du conseil scientifique d'un institut allemand, celui de Habermas, qui m'a invité à faire partie du conseil scientifique de son institut en Bavière. Et j'ai effectivement, tout en étant assez éloigné, j'ai un attachement très grand à la pensée de Habermas. Et j'allais dire, parce qu'il y a deux personnes qui ont donné au mot qui me semble le plus important aujourd'hui, toute son importance, c'est-à-dire définir notre société comme une société de communication, de même que nous avons défini notre société antérieure comme une société de production, et j'allais dire avant notre société comme une société de découverte. Eh bien, vous le savez bien, Habermas, quand il a publié son grand livre en 83, et surtout la première partie de ce grand livre, de ce livre dont le thème est « Communicatives Handeln », et Dieu sait si j'ai parlé avec lui de ce fameux « Handeln », parce qu'il ne voulait pas prendre « Action », et le deuxième, il est dans la salle, et nous allons parler avec lui tout à l'heure, c'est Manuel. Bon, là, c'est pas un détail. Je veux dire, les gens qui savent tirer juste sur l'objectif central de ce qui donne sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui donne sens. Eh bien, sur le plan philosophique, et je ne suis pas du tout un philosophe, je pense que c'est Habermas qui a dit ça. Je ne veux l'opposer à personne, puisque la France, dans cette période-là, a eu comme figure intellectuelle principale quelqu'un qui était tout à fait à l'opposé, quelqu'un qui est le plus remarquable des penseurs anti-modernes, je veux dire évidemment Claude Lévi-Strauss. Vous pouvez mettre Marcel Mauss derrière, mais c'est bien du... Même quand il parle de Lévi-Strauss, c'est bien de lui qui parle. De Marcel Mauss, c'est bien de lui qui parle. Nous parlerons tout à l'heure, parce que c'est là-dedans que je mets mes espoirs. En fin de journée, nous parlerons avec Manuel, pour qui j'ai la plus grande admiration. Nous parlerons de ce qu'il a... J'essaierai de le dire assez précisément tout à l'heure. Mais je dois commencer par des préoccupations plus inquiètes, quelquefois même un peu en colère. D'abord pour une raison simple, quitte à apparaître un peu comme un homme du passé, j'ai été formé par cette société industrielle. Et je ne peux pas cacher que j'y suis resté assez, un peu trop même, attaché. Je veux dire... Peut-être parce que je suis un historien de formation et que j'ai beaucoup aimé mes amis qui s'intéressaient au syndicalisme d'action directe, disons à ces bricoles qui étaient les Bourses du Travail, Fernand Pelloutier et d'autres, et qui étaient chargés d'un sens très profond. Même avant ça, j'ai été peut-être, si je peux dire, influencé par un grand mouvement de pensée à l'égard duquel je suis resté tout à fait éloigné à cause de mon pays. Le grand manque de la civilisation et de la culture française, c'est d'avoir loupé, d'avoir massacré la réforme. Quoique je sois un défenseur de ce qu'on a appelé la contre-réforme et qu'il faut appeler honnêtement la réforme catholique. Et quand j'étais gamin, à 17 ans, je lisais le cardinal de Bérulle et ces messieurs de Port-Royal et évidemment Blaise Pascal. Donc, disons, l'augustinisme français, c'est un peu ce qui m'a formé dans cette cagne d'une extrême médiocrité dans laquelle je m'épuisais à travailler parce que je n'étais pas tellement doué pour ce genre de choses. et qui m'ont permis de passer la barrière et ensuite de partir faire des choses et d'aller me réfugier dans ce qui était pour moi la vie, qui était pour moi à ce moment-là les mines de charbon du Nord, mais c'était aussi bien un homme à qui je veux toujours rendre hommage parce que je lui dois beaucoup, qui était George Friedman, pour tout ce qu'il a fait et puis pour la phrase qu'il a prononcée avec moi et dont je ne connais aucun équivalent aussi beau. Puis à un moment donné, où nous travaillons ensemble, il m'a dit « il faudrait quand même que vous finissiez vos études, que vous passiez une agrégation ». Je n'en sois pas embêté. Et alors il m'a dit « écoutez, je vous demande ça, de me faire ça pour moi, présentez-vous une fois ». Et si vous êtes reçu, je vous prends au CNRS en sociologie. Ça, c'est bien, mais ce qui est bien ensuite est encore mieux. Et si vous n'êtes pas reçu, je vous prends aussi. Et j'ai été reçu, évidemment, et je suis entré au CNRS. En même temps que Edgar Morin. Et quelques autres, mais enfin, c'était pas si mal.
Excusez-moi.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est moi qui ai poussé.
Et j'ajouterais, pour payer mes dettes, un deuxième homme à l'égard de qui j'ai une profonde reconnaissance, non pas pour ce qu'il a écrit, qui est parfois admirable, mais parce qu'il a fait ce que fait d'ailleurs Alain Rouquier ici, c'est à créer une institution, ce qui est aussi important que de créer un lieu, qui est Fernand Braudel, qui a été mon... Je suis entré dans la vie comme faisant partie de ce qu'on appelait les Braudel's Boys. Et les Braudel's Boys, il y avait Jacques Le Goff, il y avait des mathématiciens, il y avait des cartographes, il y avait l'admirable Maurice Lombard qui écrivait sur le commerce en Méditerranée orientale du 7e au 11e siècle, c'est-à-dire dans la grande période de l'islam, alors que personne ne s'intéressait à ce vide du haut Moyen-Âge, simplement il avait découvert que c'était la grande période de l'islam, ce qui quand même n'était pas un détail, etc., etc., des tas de gens comme ça, et permettez-moi de rappeler les amis qui ne sont plus là et qui étaient mes grands amis, qui m'ont nourri de leurs pensées, comme François Furet et Serge Moscovici, qui ont été ceux qui ont été dont j'étais les plus proches dans l'école d'études quand elle était ce qu'elle était. Ce dont je veux parler aujourd'hui, pour situer ce que nous faisons tous ici, c'est ceci. Malgré tous nos efforts, ou à cause de toutes nos bêtises, nous avons fini par sortir de cette société industrielle, au lieu de la transformer, de l'étendre, de la modifier, que sais-je. Et nous avons vu tous les éléments de la société industrielle, y compris les plus beaux, car nous avons tous ici, ou non pas tous, mais les plus anciens d'entre nous, nous avons vécu ce qu'il y a eu de plus beau dans la société industrielle, que j'appellerais la libération 1945, le plan Beveridge qui est de 1943, mais la sécurité sociale française, et l'équivalent plus vaste allemand, puisque quand même la grande création, qui n'est en fait pas allemande, qui est une création faite par les Anglais, parce que c'était les Anglais qui occupaient la Ruhr, c'est Sozialmarktwirtschaft, c'est-à-dire vraiment au sens le plus fort. Vous vous rendez compte aujourd'hui, si je vous dis que les conseils d'administration de la Ruhr étaient à 50% syndicaux et à 50% patronaux, je veux dire que je plaisante, que tout le monde sait bien que ces grands barons de l'acier étaient des réactionnaires, tout ce qu'on voudra. Ben, Il y a même eu un président directeur général de Volkswagen qui était un syndicaliste. C'est vous dire que le recul et l'écroulement de tout ce qu'il y avait. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'exploitation, de domination, de conflit. Assurément. Assurément. Et c'est comme ça que va le monde. Mais nous avons vécu. Moi-même, je dirais, j'ai mes petites responsabilités parce que j'étais trop passionnément attaché au monde industriel. Et quand on m'a envoyé pour la première fois en Amérique latine au Chili avec la vedette, la grande figure, c'était mon ami Manuel Antonio Garretón, j'ai dit, comme je parlais un espagnol qui n'existait pas, j'avais en effet au lycée, on m'avait fait apprendre un peu d'allemand. Et je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas vous faire des cours. Venez avec moi, on va aller. D'abord, on a ses manies, on va aller dans les mines, mais on va aller aussi dans la sidérurgie. Et donc, le livre que nous en avons ramené s'appelle Huachipato et Lota. Huachipato, c'est la sidérurgie. Et Lota, c'était qui nous a beaucoup mieux traités. Je suis obligé de dire honnêtement pourquoi. C'est que Lota était un syndicat communiste et que quand le syndicat a dit « je veux bien de vous », toutes les portes ont été ouvertes et nous avons... Et je dois même avouer que j'ai cherché des jeunes gens intelligents, actifs pour nous aider dans nos travaux. Et ceux que j'ai choisis, un peu, pas tout à fait au hasard, sont devenus, quelques années plus tard, les chefs du MIL, qui étaient souvent des fils d'universitaires, d'ailleurs, de Concepción. C'est dire que, et puis ensuite, quand même, un mot pour un des grands amours de ma vie, qui est la Pologne. C'est-à-dire que je sais bien que Solidarność, c'est tout à la fois, c'est un mouvement national, c'est un mouvement démocratique, mais c'est aussi d'abord un syndicat. Les étudiants n'étaient pas membres de Solidarność parce qu'ils n'étaient pas salariés. Et nous avons tous ces gens-là, et Geremek, et Mazowiecki, et Courogne, et Mazowiecki et Modzelewski qui nous rendaient visite il n'y a pas longtemps à la Maison des sciences de l'homme. En fait, tout ça, si vous voulez, je me suis laissé porter par ce qu'on appelle d'un terme contestable, mais bien commode, bien réel, qui s'appelle le mouvement ouvrier. C'est ça qui a, à mes yeux, donné sens à 150 ans ou 200 ans d'histoire. Les Français étant d'ailleurs des gens qui n'ont pas bien compris, ce sont pas beaucoup. Les Français ne se sont pas intéressés à grand chose après la Révolution française, à vrai dire. C'est-à-dire que, mais ils n'avaient pas forcément tort. Je veux dire que ça a été le summum de cette grande création qu'on a appelée la citoyenneté, la ciudadanía. Et qui est une citizenship aussi dans les manuels universitaires américains. Et puis ensuite, il y a eu la période, oui, du travail, je m'excuse d'employer ce mot, des travailleurs. Et j'ai mis beaucoup de temps à en sortir, déjà à me demander ce qui venait après. Et alors, ce que je ne veux pas... vous dire ce que j'ai essayé de dire depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Mon premier livre est de 1955 et mon éditeur était le CNRS. Et mon éditeur n'est pas là aujourd'hui, je serais content de le remercier. Et ce dont je veux vous parler, c'est ceci. Le moment où nous sommes, c'est ceci. Le monde industriel, les catégories du monde industriel, les formes de gouvernement, mais les idées, les formes de travail, tout ça s'est écroulé peu à peu. Je veux dire que la chose qui s'est écroulée, parlons d'avenir, La chose qui s'est écroulée, c'est que ce qui était au cœur de notre pensée, c'était l'interaction de l'homme et de la nature, ce que nous appelons le travail. Et aujourd'hui, la grande réalité, Emmanuel nous l'a répété sur tous les tons, c'est au contraire la rupture. Il y a d'un côté, oui, il y a d'un côté le monde numérique, le monde de l'intelligence artificielle, le monde, comment dirais-je, le monde dont les grands maîtres à penser, les grands inventeurs, s'appellent Russell, Wittgenstein et Chomsky, qu'ils plaisent ou non, pour d'autres raisons. Et puis de l'autre côté, et c'est ça le grand au-delà du travail industriel, au-delà de la société industrielle, il y a, Jean-Michel vient d'en parler, sans le nommer exactement, mais de diriger notre regard vers lui, celui que j'appelle le sujet, ou plus exactement, là-dessus, mes amis ont souvent corrigé un peu mon tir, moins que le sujet, ce qui est important, c'est la subjectivation, et finalement, moi, le drapeau que j'agite au-dessus de mon travail depuis 30 ans, c'est ça. La subjectivation, la lutte contre la désubjectivation et la peur de ce que d'autres que moi ont appelé les anti-mouvements sociaux et qui ont été étudiés si bien par Wieczorka, et permettez-moi d'ajouter son nom, étant donné l'immense admiration que j'ai pour lui, par Farhad Khosrokavar, qui est celui qui a compris enfin profondément ce qu'était le djihad, ce qui n'était pas une bricole du point de vue de l'analyse sociologique, ce qui était, et croyez-moi, Farhad Khosrokavar, dans l'histoire de la sociologie, c'est au niveau de Durkheim et de Max Weber. C'est-à-dire les rapports entre l'économie et la religion, c'est peut-être le problème le plus difficile des sciences sociales. Ce qui est pur sens et ce qui est non-sens mais fait ou logique interne. Eh bien, comment est-ce que ce qui est le subjectif et ce qui est l'objectif, comment tout ça s'unit? C'est, je dirais, la voie royale de la grande, de la belle, de l'admirable sociologie, dont je continue à penser banalement que ceux que je viens de citer, Weber et Durkheim, qui ont vécu sans se connaître à la même époque, ont été et restent encore les plus grands noms. Donc, ce que je veux dire, parce que le temps nous est certainement mesuré, ce que je veux dire, c'est ceci. Tout ça est mort, tout ça est mort, et aujourd'hui, où je vous parle, ce centre auquel j'ai consacré ma vie pendant un demi-siècle, il est mort. Et il est mort parce qu'on l'a assassiné. L'ancien président de l'école des hautes études, qui était un honorable historien économique sans gloire particulière, a décidé qu'il fallait foutre tout ça en l'air. Ça, c'était des vieilles histoires. Bon, mais c'est un détail. Mais en même temps, l'histoire, dans les années 16, 17, 18, Emmanuel a fait un excellent livre dont il a éliminé toutes les données qu'il a publiées à part sur Internet. Mais c'est qu'il a appelé Ruptura, hein, c'est la fin de ce qui est, ce qu'il a appelé de son nom juste, car il est dramatiquement juste, c'est la mort de la démocratie libérale. Et c'est ça qui est en cause, ce n'est pas un détail, il ne s'agit pas de pleurer, c'est grave, il s'agit de savoir, bon, il y a des choses qui sont mortes, mais moi je ne dirais pas, je n'ai pas de rapport particulier avec ce type, enfin, je le respectais assez, c'est Montesquieu. Et bien Montesquieu, c'est fini. Je veux dire, de faire reposer la démocratie sur la séparation des pouvoirs, ce qui est la pensée de Montesquieu, ce qui est la pensée des, ce qui est la pensée des Américains, des checks and balances, du système politique américain et les maîtres en la matière des Anglais. Bon, tout ça s'est cassé la gueule. Et nous sommes aujourd'hui dans cette période 16, 17, 18, Brexit, l'horrible Trump, la crise française et la sortie de crise ou la semi-sortie de crise, nous n'en savons encore rien. Puis la chute terrible italienne. Et quand même, comment ne pas dire l'horrible catastrophe brésilienne qui termine cette époque et d'autres qui viendront probablement, quoique je fasse partie des gens qui, en tant que latino-américaniste, connaît assez bien personnellement López Obrador et a un certain, a une certaine confiance en López Obrador. Non sans inquiétude, mais en tout cas, face à ce qui se passe dans d'autres pays, y compris pour de mauvaises raisons, qui s'appelle ALENA. C'est-à-dire que quand même, il est en même temps écrasé, mais soutenu, comme les Canadiens, qui s'en tirent pas si mal, par ALENA, dans la mesure où le grand chef ne peut pas les laisser se faire bouffer entièrement par les bandits. Mais nous sommes dans ce monde-là, et à partir de là, qu'est-ce que je fais moi depuis en particulier 5 ans ou 6 ans? Je cherche, et c'est là-dessus que je vais essayer, je cherche à reconstruire la théorie sociologique. Qu'est-ce que c'est que la... Si vous me dites que les acteurs sociaux, que les actions sociales sont déterminées par l'économie, par la politique, par la religion, alors il n'y a plus de société, il n'y a plus que des empires, et il n'y a plus que des déterminismes, il n'y a plus que des pouvoirs absolus, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de mouvements sociaux. Est-ce que nous pouvons sortir de là? Je veux sortir de là. Et jusqu'à mon dernier jour, je travaillerai dans mon petit monde, qui est le monde des idées, à essayer de nous faire sortir de là. Et nous allons commencer tout à l'heure avec Manuel. Nous allons commencer à parler, on ne laisse pas beaucoup de temps, il est 2h de l'après-midi ou 2h30 de l'après-midi, et j'ai montré ce monde qui s'écroule et le risque capital des empires qui écrabouillent toutes les libertés. Tout en réussissant des choses, Napoléon a réussi des choses et M. Xi Jinping a réussi des choses, je ne dis pas le contraire. Mais nous allons essayer de savoir sur quoi. Et nous allons partir, et je vais dire à Manuel qui je vais appeler à la rescousse, qui est un grand copain à lui, et que j'admire beaucoup, pour sortir de ce monde du travail écroulé. C'est son ami Damasio, c'est-à-dire son copain de l'université.
C'est comme ça que je commence
mon intervention sur le plan. Et j'ajoute, pour être tout à fait complet, que mon ami, qui est ici au premier rang, vient d'élire Damasio, président de...
Ah non, c'est ça
encore, là. Si, moi je suis au courant. Qui sera le président du jury du prix Nonino, qui est un prix qui a sacré Peter Brook, Grotowski et des gens tout à fait remarquables. Et d'autres moins remarquables.
Le Nobel du 21e siècle.
Comment?
Le Nobel du 21e siècle.
Oui. Oui, absolument.
Oui, Antonella.
Oui, oui. Bon, tout ça est une grande affaire. Et donc nous allons, et moi je vais vous dire tout à l'heure, en une demi-heure, ou à peu près, je vais vous dire les grandes composantes, les grands éléments théorique, c'est-à-dire d'un côté l'idée de sujet, qui est l'idée de base, l'idée de la subjectivation, et puis l'idée de communication, l'idée de globalisation qui porte des dangers épouvantables. Et quand on combine ces trois éléments, on peut voir se constituer le champ des acteurs sociaux en bien et en mal, comme j'ai déjà dit, le renouveau des empires contre les démocraties libérales, mais la possibilité de faire naître des démocraties, je ne dirais pas au-delà du libéral, sûrement pas illibéral, pour parler comme notre ami Roupnik, mais quand même de comprendre des visions plus globales, avec des mouvements plus globaux, ce qui fait appel aussi à ce thème de la globalisation. Ulrich Beck n'est plus là pour nous convaincre et nous en parler, mais et il y a dans la globalisation des dangers, c'est-à-dire dans la mort des États nationaux, ce qui n'est quand même pas une bricole. Mais c'est là-dedans qu'on vit, quand même. Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire revivre l'acteur social qui n'est plus l'État national, mais qui ne doit pas être Goldman Sachs ou Xi Jinping, ce qui est à peu près la même chose. C'est ça que je veux dire. Nous sommes à cet instant, cet après-midi, à mi-chemin, dans ce long chapitre qui mène de la mort de la société industrielle à la naissance de la société. Jean-Michel Blanquer a rappelé les mots qu'il faut employer, cette société qui n'est certainement pas post-moderne, quoique mon grand copain, quand j'étais cagneux, s'appelait Jean-François Lyotard, et que je suis au plus loin de Jean-François Lyotard, que j'ai pourtant avec qui j'ai pu longuement converser avant qu'il meure, beaucoup trop tôt. Mais nous sommes à la recherche de cette nouvelle civilisation que j'ai appelée hyper moderne, pour bien marquer qu'il ne s'agissait pas d'un retour en arrière, et que nous allons conquérir. Et là, moi, je suis un peu en retard, mais il y a des gens dans cette salle, comme autour de cette salle, qui sont en train de chercher à prendre ce qui était la pensée la plus médiocre et la plus démobilisatrice, qui était l'écologie des écologistes, que je me permets d'appeler en un langage non universitaire, des écologistes à la con, et de les faire prendre en charge par la subjectivation, comme le font les scientifiques. Et les scientifiques ont commencé, et les hommes d'État aussi. Pas l'opinion publique tellement, mais quand même, petit à petit, on assiste à ce qui est vital pour nous, c'est-à-dire la réintroduction de l'approche écologique dans l'approche plus globale d'une société hyper moderne et qui a besoin de se mobiliser, ce qu'elle n'a pas encore réussi à faire, pour être maître de des dangers qu'elle court et des efforts qu'elle doit faire pour les surmonter. Alors, j'ai été beaucoup trop long et je m'en excuse, et je vous dirai donc, ne désespérez pas en ces 3 heures de l'après-midi, parce que j'espère que Manuel et moi allons réussir à vous convaincre qu'on peut créer une civilisation nouvelle.